premier sur l'info. Le journal présenté par Cédric Vallax.
C'est parti pour le journal Les Infos. Cédric, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. C'est cette semaine que le Tapura se décidera sur le choix de ses candidats aux prochaines législatives. Pas de souci pour la première et deuxième circonscription. Par contre, ça coince toujours pour la troisième. Le Tapura réunira donc jeudi sa commission d'investiture qui fera le choix parmi les quatre candidats en lice. Un choix qui sera validé vendredi par le conseil politique du parti d'Edouard Fritsch. La deuxième conférence économique du pays s'est ouverte hier matin. Nous ferons le point sur l'un des nouveaux ateliers proposés. Il concernait le soutien et le développement de la production locale avec un focus sur le secteur primaire. Économie toujours dans ce journal, mais cette fois-ci numérique avec les matinées des business qui débutent ce matin. Il y sera question de l'intranet collaboratif au cœur de la transformation digitale. Une révolution numérique que deux spécialistes arrivés de métropole viendront expliquer. Vous les entendrez.
Mais on commence avec ce blackout nocturne au Taonais.
Oui, c'est un petit vent de panique qui a soufflé hier soir dans les couloirs de l'immense hôpital. L'hôpital plongé dans le noir entre 19h et 21h suite à une coupure de courant. Les générateurs de secours n'ont pas fonctionné, sauf les onduleurs et le système de sécurité dans les services sensibles du bloc opératoire et de la réanimation. Le directeur par intérim de l'hôpital, James Cowan, s'est rendu sur place dans la soirée. Il nous confirme que l'incident n'a eu aucune conséquence sur les soins ou les patients. James Cowan qui annonce également avoir demandé un rapport à CGLK et à EDT et un audit à ses services techniques internes pour comprendre précisément l'origine de la panne. On devrait en savoir plus dans la journée.
Et on passe à la politique avec le Tapura qui doit se décider cette semaine sur ses candidats en vue des prochaines législatives.
Oui, une décision qui ne pose pas de problème sur la première et deuxième circonscription. Le 15 septembre dernier, la commission d'investiture du Tapura a fait son choix avec Maïna Sage et Nicole Sanquer. Par contre, ça coince toujours sur le choix du candidat de la troisième circonscription. Selon nos informations, c'est donc jeudi que le Tapura réunira à nouveau sa commission d'investiture. Après le retrait de Tevaro Fritsch, il reste quatre candidats en liste. Le ministre de la Santé, Patrick Ouel, le cadre de TNAD, Luc Fahatao, le ministre du Tourisme, Jean-Christophe Bouissou, et comme nos confrères de Polynésie Première l'ont annoncé, l'ancien président et maire de Bora Bora, Gaston Tongsang. Vendredi, le parti d'Edouard Fritsch réunira donc son conseil politique pour entériner officiellement ses candidatures dans les trois circonscriptions.
Et on poursuit avec la deuxième conférence économique de la Polynésie qui s'est ouverte hier au Méridien.
Oui, cette rencontre fait suite à la première conférence organisée en mai dernier. L'objectif étant d'interroger les acteurs publics et privés de l'économie polynésienne sur les mesures mises en place dans le cadre du plan d'action économique du pays. Parmi les trois nouveaux ateliers proposés, l'un d'eux concernait le soutien et le développement de la production locale avec un focus sur le secteur primaire. Une table ronde qui a visiblement suscité un vif intérêt vu le nombre de participants. Les agriculteurs, eux, étaient absents mais représentés par le service du développement rural qui a fait le relais de leurs demandes. Écoutez les précisions de Jérôme Leclerc, adjoint technique au chef de service du SDR. Il est au micro de Valentine Bluet.
Bah, ils attendent qu'on les soutienne au niveau foncier, parce qu'il y a une énorme demande au niveau foncier, notamment chez les jeunes, parce que trouver du foncier pour l'agriculture c'est difficile, les loyers sont chers. Ils attendent des aides au niveau, mais ça c'est des systèmes qu'on a déjà mis en place, mais ils sont demandeurs d'aide pour acquérir des équipements, tracteurs, broyeurs, matériel d'entretien des cultures. Ils attendent de nous qu'on soit performants également au niveau recherche pour tout ce qui est leur proposer des variétés intéressantes, efficaces, qui ont des bons rendements, qui soient résistantes à telle ou telle maladie qui les touche.
Et voilà, du côté des commerçants, on demande une restructuration de la filière et plus particulièrement un encadrement des coopératives agricoles. C'est ce que nous explique Gilio, le président de la Fédération Générale du Commerce et directeur d'Agritech.
Il faut peut-être redonner d'autres moyens à des organismes existants comme la Chambre d'agriculture pour l'accompagnement, la vulgarisation, et puis donner au SDR des missions d'encadrement des coopératives agricoles qu'il va falloir qu'il y ait un acteur incontournable, notamment dans les îles où le développement agricole se fait principalement, de restructurer les coopératives agricoles tout en donnant la partie technique et la partie finance à des agents du SDR.
Autre point soulevé autour de cette table ronde, celui des quotas d'importation des fruits et légumes mis en place lorsque la production locale est insuffisante. Un système que le pays souhaite modifier en un système de protection tarifaire avec une taxe de développement local, les fameuses TDL, sur les fruits et légumes importés.
Économie toujours, mais cette fois numérique avec les matinales de l'e-business qui débutent ce matin.
Oui, changer pour évoluer et s'adapter, c'est ce que devront faire les entreprises dans les années à venir pour améliorer leur productivité. C'est ça la révolution numérique, thème de la 5e deuxième saison des matinées d'e-business, un concept pas toujours évident à appréhender. Et c'est pourquoi les organisateurs de l'événement ont fait venir deux spécialistes de l'éditeur Jalios. Parmi eux, Ahan Wabibi. La révolution numérique, finalement, ce n'est pas si compliqué que cela.
Les entreprises se rendent compte que les salariés ont l'habitude d'utiliser des outils comme Facebook, Viadeo, LinkedIn, de trouver facilement l'information via le moteur de recherche Google. Et en interne, ils n'arrivent pas à proposer ce genre d'activité. Et donc, il y a un gap technologique au niveau informatique entre ce que propose l'entreprise aux différents salariés, que trouvent ces salariés dans le secteur, dans la partie publique, et du coup, avec un risque de déficience au niveau de la productivité. C'est ça, la révolution numérique doit prendre en compte les différents dirigeants et l'intégrer dans la façon de travailler des salariés en interne de l'entreprise.
Et qui dit nouvelle façon de travailler dit également nouvelle façon d'apprendre. Ça fait partie des évolutions en cours dans le monde de l'entreprise. Le développement d'une plateforme collaborative permet de changer de mode de transmission du savoir. C'est ce qu'explique Mathieu Bijard, consultant en transformation numérique.
On s'est aperçu que la formation traditionnelle a été très compliquée à maintenir en place. C'est coûteux, c'est long, ça manque de rythme. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre aussi des formations modulaires, utilisant les nouvelles technologies pour permettre aux personnes de partager elles-mêmes leur savoir-faire sur des formats très courts. Ça peut être des petits didacticiels, des petites vidéos en ligne sur lesquelles on va faire du partage de savoir-faire, du partage d'expertise entre pairs. Pas seulement depuis un formateur dans une salle en présentiel sur une journée complète, mais plutôt sur des modules courts de quelques dizaines de minutes.
Voilà, les matinées du business, ça commence donc ce matin à l'école hôtelière. Vous retrouverez le programme des trois conférences gratuites et des ateliers qui suivront sur notre site internet radio1.pf.
Justice à présent avec le retour de l'affaire de la vaisselle de la présidence.
Oui, c'est en effet aujourd'hui que le tribunal correctionnel de Papeete rendra son délibéré dans cette affaire où l'ancien président Gaston Flosse et sa compagne Pascal Haïti sont poursuivis pour détournement de biens appartenant à la Polynésie française. Lors du procès en août dernier, le ministère public avait requis une peine d'un an de prison ferme et de 3 ans d'inéligibilité à l'encontre de Gaston Flosse. Contre Pascal Haïti, le représentant du parquet avait requis une peine de 6 mois de sursis et 1,5 million de francs d'amende.
Et cette nomination maintenant à la tête de la direction de la jeunesse et des sports.
C'est Anthony Feu qui a été nommé le 5 octobre dernier à la tête de la direction. Il remplace Gérald Ouioutou qui assurait l'intérim depuis la démission de l'ancienne directrice Maëlle Hôpital au mois de septembre dernier. Anthony Feu, jeune professeur de PS mais également professeur de golf et danseur. Le sport, il connaît. Il est également passé brièvement par le cabinet de l'ancien ministre des Sports d'Edouard Fritch, René Temeraro.
Et on termine avec la navette des Marquises Sud qui sera bientôt livrée.
Oui, ce navire baptisé Teata Ohiva assurera les liaisons régulières entre Hivawa, Tahuata et Fatuhiva. Le bateau est presque terminé puisque des essais en mer ont été réalisés vendredi dernier sous le contrôle de la direction des affaires maritimes et du service de la flottille administrative de la direction de l'équipement. La navette devrait pouvoir naviguer dans les eaux du sud des Marquises avant cette fin d'année. Sachez que son exploitation sera assurée dans un premier temps par le service de la flottille avant d'être confiée en gestion déléguée soit à la communauté de communes des îles Marquises, soit directement à un prestataire privé.
Retrouvez l'info en continu Radio 1. Sur radio1.pf.